Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux en direct. Plus d'un million d'auditeurs chaque samedi. Mais vous êtes également extrêmement nombreux à nous écouter en podcast le samedi après-midi, le dimanche après-midi, tranquillement à la maison. Merci aussi de votre fidélité. Vous êtes, et on bat toujours des records en podcast. Donc on est très heureux que ça marche et que vous aimez cette émission. Toujours avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Fred Weiss, Denis Charvet. Dans quelques instants, le choix de Fabien Galthié concernant le poste de numéro 10, Ntamack ou Ramos. Est-ce que c'est un choix sportif ou un choix politique? Ce sera donc notre débat 15 de France dans quelques instants. 11h30, nouvelle année. Nouveauté dans cette émission, le dossier des GG J-3 avant les mondiaux de hand. Les Bleus veulent leur revanche après l'échec des JO. Vous vous souvenez, j'imagine, de cette dernière action de Dikamem où il perd la balle à quelques secondes.
Ouais.
Est-ce que ça peut rester un traumatisme? Ce sera notre question. Et puis 11h45, le débat caché. À ça, on garde évidemment, on décale un petit peu l'horaire. Le débat caché, les GG ne savent rien pour l'heure, mais pourtant, elles vont devoir débattre. D'après vous, ce sera quoi? Votre feeling, votre sensation du débat caché, Fred Weiss?
Moi, j'aurais eu envie de parler de Thomas Hurtel qui, après des aventures barcelonaises, encore une fois a signé à la Corogne et me pose la question: est-ce qu'il a le droit à une deuxième chance en équipe de France du fait qu'il joue en Europe?
Ok, le droit à la seconde chance pour Thomas Hurtel, c'est la proposition de Fred Weiss. D'après vous, le débat caché, ce sera quoi, Denis Charvet?
Au mois d'avril, le TAS va sanctionner sûrement notre ami Sinner. Est-ce que ça va être pour 1 an, 2 ans? On se pose la question parce que ça risque d'être long.
Ok, et toi tu poses la question.
Tu peux faire des paris là-dessus,
non? J'ai peur pour lui. C'est pour ça que le débat se pose.
Ok, Marion Bartoli, une idée sur le débat caché?
J'allais partir aussi là-dessus, surtout que l'équipe, nos confrères vont sortir des gros dossiers demain. Mais bon, du coup, je vais changer. Parce que comme Lille et Monaco ont fait match nul et qu'il y a un OM Rennes qui s'annonce chaud, chaud bouillant et que l'OM pourrait éventuellement prendre 5 points d'avance sur Monaco s'il remporte ce match, est-ce que c'est pas un petit peu le tournant du championnat là pour l'OM pour assurer sa qualif en Champions League s'il remporte ce match aujourd'hui contre Rennes?
Eh oui, ce sera ce soir et ce sera à suivre sur RMC, évidemment.
Il y a peut-être un débat d'ailleurs autour de Mandanda, d'ailleurs, puisque vous savez que Mandanda retrouvé malheureusement Sampaoli.
C'est horrible pour lui.
Et donc il a retrouvé le banc.
Il a retrouvé le banc.
Il a perdu la confiance surtout.
Il y a Samba qui va arriver.
Il est arrivé.
J'ai l'impression que c'est un peu la fin de guerre. Il faut qu'il s'en aille une nouvelle fois. Il faut qu'il fuit Sampaoli, quoi. C'est le méchant petit lutin qui s'acharne sur Steve. Ou alors peut-être un débat sur les incendies à Los Angeles. J'ai vu que les matchs des Lakers et des Clippers avaient été reportés finalement.
Il y a médaille olympique, il y a eu ces 10 médailles qui ont brûlé là.
Ah ouais?
Il
y a eu sa maison qui a brûlé.
Oui. Mais toi, ton débat, ce serait plutôt de savoir si on doit continuer de jouer dans ces cas-là.
On doit continuer, malgré tout. À Valence, par exemple, ils avaient annulé les matchs après les inondations. Est-ce que le show must go on, comme diraient les Anglais?
Il y a un débat aussi, Vincent Moscato, qui va arriver à la télé lundi.
Ah bon?
Oui, non, ça ne m'intéresse pas.
Mais si, c'est sur RMC Story.
RMC Story, il n'y a pas de débat, c'est pour faire de la pub.
Faut-il le maquiller?
De super Moscato Show à 15h lundi. Mais bien sûr.
Oh, tu vas être beau.
15h, 18h sur RMC Story, le super Moscato Show qui débarque en télé, comme ça c'est fait pour les copines et pour les sangliers. Voilà, on fait un petit peu de promotion. Merci pour vos débats cachés, c'est 11h45, 4 bonnes propositions. Mais on verra évidemment l'identité du débat, ce sera un petit peu plus tard. Anthony Fernandez a dit un jour, le choix, c'est l'absence de liberté.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
À la fin, il n'en restera qu'un.
À hauteur, on joue dans le dos, Ramos. La passe au pied, c'est cadeau. C'est cadeau pour Gaëtto et ça fait essai.
C'est l'heure de la finale.
Ntamack qui est passé.
Oh là là, il va.
Ils ont surmonté tous les dangers.
Thomas Ramos qui a pris la tabale, qui enlève le ballon.
Peno
pour Ficou, un contre un, il y va. Essai
de Ficou.
L'aventure, il faut qu'elle soit belle, il faut la gagner.
Sera sacré, légende parmi les légendes. Vous le découvrirez lors de l'ultime conseil.
Le gars du match pour Thomas Ramos, certainement. Ce ballon qui part, il y aura la distance.
Bien,
il y aura ce tir.
C'est l'heure du duel. Si c'est toi ou moi, je n'ai pas le choix.
Et oui, à la fin, il devrait n'en rester qu'un. Bientôt, ce sera l'heure des choix pour Fabien Galthié. Le premier, c'est mercredi prochain avec l'annonce de la liste des 42 joueurs retenus pour préparer l'ouverture du tournoi des Six Nations. Le deuxième, beaucoup plus compliqué, ce sera un peu plus tard pour déterminer le 15 de départ pour affronter le Pays de Galles le 31 janvier. Et le troisième, encore plus compliqué, qui est l'ouverture? Qui pour accompagner Antoine Dupont en charnière? Romain Ntamack, le titulaire indiscutable avant sa blessure, ou Thomas Ramos, le dépanneur exceptionnel pendant la tournée d'automne? La musique qui fout les jetons, et cette question. Je vais pas vous demander de choisir forcément entre Ramos ou Ntamack. Je laisse ça aux spécialistes. Je laisse ça entre les poteaux, le podcast de référence.
Il faut écouter.
Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que ce sera un choix politique ou un choix sportif que devra prendre Fabien Galthié? Politique ou sportif? Christophe Cessieux.
Je pense qu'il fera un choix politique.
Politique. Denis Charvet.
Oh non, sportif.
Sportif. Marion Bartoli.
Sportif.
Sportif également. Fred Weiss.
Politico-sportif.
Politico-sportif. Il nous fait une Denis Charvet. Un oui, non inversé.
C'était beau.
Bravo, mon cher Fred.
Niveau politique.
Avant de débattre,
moi, je l'ai joué.
On va retrouver la voix du rugby sur RMC. C'est Wilfried Templier.
C'est un politique, par
exemple. Bonjour, salut, Wilfried.
C'est un politique. Ah oui, c'est un énorme politique.
C'est vrai que Fabien Galthié va devoir faire un drôle de choix.
Oui, tu l'as dit, soit maintenir un Thomas Ramos étincelant lors de la dernière tournée d'automne et au passage l'ouvreur titulaire lors des 5 dernières victoires consécutives des Bleus, ou relancer Romain Ntamack, celui qui était et a toujours été, on peut dire, le numéro 1 à ce poste dans la tête de Fabien Galthié, celui du Grand Chelem 2022, avant sa grave blessure au genou à moins d'un mois de la Coupe du Monde en France en 2023. Alors, plusieurs choses à prendre en compte. Déjà que Ramos, à n'importe quel poste, sera titulaire puisqu'il est le buteur de cette équipe de France, hein, qui tournait 90% de réussite en novembre, mais qu'il ne joue pas à demi d'ouverture en club. Cet après-midi, en déplacement aux Sharks avec Toulouse, il sera bien arrière et c'est le poste qu'il préfère. Souvenez-vous d'ailleurs ce qu'il disait à notre micro avant la tournée d'automne.
Moi aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je suis numéro 15. Enfin, que mon poste est numéro 15, que je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là et que mon objectif a toujours été d'essayer d'être titulaire en numéro 15 en équipe de France. J'ai la chance depuis l'année avant la Coupe du Monde de pouvoir être titulaire à ce poste-là, donc bien évidemment que j'ai envie de continuer à l'être.
Malgré tout, Fabien Galthié peut-il douter au moment de faire sa première composition d'équipe du tournoi pour le Pays de Galles et laisser Ramos en 10? Peut-il modifier les équilibres qui ont fait les succès récents de la France et donc aussi enlever l'arrière de l'UBB Romain Burros qui a donné satisfaction sous les ballons hauts notamment? C'est possible. Écoutez le sélectionneur, c'était en novembre. Il répondait à la question des critères de sélection de sa charnière, de la composition de cette charnière, Fabien Galthié.
En premier, c'est le talent. C'est le potentiel, c'est le niveau de jeu. Bien sûr qu'ensuite, si on étudie la performance d'une équipe, un des facteurs clés de succès, c'est le vécu collectif, c'est l'expérience collective. Vous le prenez comme vous voulez, vous prenez les équipes de club, vous prenez les équipes nationales. Un des critères essentiels pour gagner, c'est l'expérience collective. Nous, on est dans un autre modèle et on doit s'adapter, on doit travailler différemment et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans l'adaptation et dans la recherche de performance, on prend d'abord ce qui nous semble les joueurs les plus performants du moment.
Avec lui, c'est important de lire entre les lignes. Le vécu collectif, il vous dit, même si, comme il le précise parfois en bleu, au gré des blessures et du peu de temps passé ensemble, ils doivent s'adapter. Mais sur le vécu, en la matière, la charnière Dupont-Ntamack s'impose, car les deux, c'est tout simplement le record d'association dans l'histoire du 15 de France. 27 matchs ensemble sous le maillot bleu, et aussi évidemment un vécu en club toute l'année à Toulouse. C'est avec eux qu'on se dirigeait vers la Coupe du Monde 2023. Est-ce que Galthié va les remettre sur le chemin de sel en Australie en 2027? Réponse d'ici une dizaine de jours à l'entraînement à Marcoussis.
Ouais, débat à l'ouverture, évidemment. Merci beaucoup, Wilfried Templier. Tu restes avec nous pour ce débat. Vous pouvez participer, chers auditeurs, au 32-16 concernant votre 15 de France, Ramos, Ntamack. Est-ce que ça va être un choix sportif ou un choix politique que devra prendre Fabien Galthié? J'ai un premier sportif, c'est Denis Charvet. Pourquoi sportif?
Il n'y a toujours que des choix sportifs dans la tête de Fabien. Je suis désolé, il n'a jamais été vraiment politique, Fabien. C'est un gars qui est passionné, qui connaît très très bien le rugby, qui est un grand technicien. Et aujourd'hui, le débat, il se pose. Pourquoi? Parce que Romain Ntamack n'est pas revenu à son meilleur niveau, tout simplement. Romain Ntamack serait à son meilleur niveau, il n'y aurait pas de débat aujourd'hui, on ne se poserait pas la question.
Ah bah oui, merci.
Oui, non, mais, donc le doute, c'est Ramos qui l'a mis dans la tête à Fabien, parce que justement, il a fait des performances XXL en équipe de France, et qu'il est devenu un métronome à ce poste, ce qu'on n'attendait pas moi le premier. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très doué, qui est très, très fort, mais à ce poste-là, ça demande beaucoup d'expérience. Lui, il n'en a pas autant que ça, eh bien, il arrive à rayonner, il arrive à assurer, à rassurer. C'est un phénomène, ce garçon.
Si tu fais un choix que sportif, tu penses qui, alors,
aujourd'hui, je fais un choix sportif, je mets Ramos. Pourquoi? Que je condamne. Attends, je finis. Pas que je condamne Romain Ntamack, pas du tout, parce que je le trouve très fort à ce poste-là. Et puis d'abord, il faut qu'il confirme sa montée en puissance, on va dire, physiquement, parce qu'il a été longtemps blessé. Mais après, il y a la question de l'arrière qui se pose. Il l'a très bien dit, Wilfried. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pêché sur quoi les dernières années? Sur les ballons hauts. Sur les ballons hauts qui nous ont fait défaut, on a perdu un quart de finale à cause de ce secteur-là.
Et donc en 15, tu mets Burros.
Eh bien, Burros est un phénomène à ce poste. C'est peut-être le meilleur en Europe. Tu te dis, la question se pose forcément. Donc c'est réellement, on en revient à un choix sportif. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait? On laisse Romain, on laisse Thomas qui a assuré et qui. Alors tu parles de complicité, je ne sais pas qui le disait, Wilfried, par rapport à Antoine Dupont, mais Ramos avec Antoine Dupont, ils sont aussi complices parce qu'ils jouent dans le même club, ils se connaissent par cœur. C'est un peu la même chose. Tu vois, tu t'enlèves Romain et tu mets Ramos, c'est pareil quoi, au niveau de la complicité. Ouais, avec...
C'est pas pareil pour Romain Ntamack en tout cas.
Mais évidemment, mais c'est pour ça qu'on fait le débat. Mais sincèrement, je reviens au choix sportif. Denis. C'est réellement un choix sportif. Est-ce que Fabien va avoir le courage de prendre cette décision ou pas? Je n'en sais rien.
Alors, s'il décide de mettre Ramos, c'est un choix sportif.
Oui.
S'il décide de mettre Ntamack, ce sera un choix politique.
Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'il estime que l'équilibre, il en parle dans ce qu'on vient d'entendre, que l'équilibre collectif est primordial et fondamental. Donc, dans cet équilibre, est plus important.
La politique, en gros, hein.
Ah non, je pense pas.
Je te parle pas de la politique politique. Non. Mais c'est la politique, c'est.
Non, il dit que c'est collectif.
Gérer les blogs, gérer les échos.
Non, parce qu'il dit. Non, il dit que
ce serait pas la politique de l'homme en forme de mettre Romain en 10 pour l'ouverture du tournoi. Moi, je trouve.
Il parle de l'équilibre collectif. Tu veux dire longtemps.
Oui, donc c'est.
Mais c'est pas que politique.
Mais c'est pas. C'est pas un choix sportif, je suis désolé. Pour moi, le choix sportif aujourd'hui, ce serait de mettre Thomas Ramos en 10 et de mettre Burros en 15 et Dupont en 9. Sur ce qu'il nous montre ces derniers temps. Mais bon, ça aurait été aussi de mettre Jalibert en 10 avant la tournée de novembre.
Ah oui, mais là, le problème, c'est qu'il est plus dans le...
Il fait pas toujours la politique de l'homme en forme. Tu as raison de le dire, Galtier. C'est effectivement, il respecte les uns et les autres, les automatismes entre les uns et les autres, la confiance qu'il pourrait redonner à Romain. Il sait qu'il lui retournera d'ici quelques temps. Peut-être qu'il a pas encore retrouvé toutes ses qualités, ses dispositions. Mais ce n'est qu'une question de temps pour Ntamack. Donc effectivement,
ne peut pas être qu'un choix sportif. Donc c'est ce que tu veux nous dire.
Non, parce que un sélectionneur ne peut pas faire que des choix sportifs. Il doit penser comme un joueur d'échecs.
Oui, mais tu parles pas d'un choix sportif, mais Romain Ntamack, on disait que c'était le meilleur joueur du monde. Donc on va pas dire que c'est la politique de le mettre à l'ouverture aujourd'hui quand même.
Mais c'est pas le cas en ce moment.
Alors, on va voir.
Il revient de blessure.
Dans un mois peut-être qu'il sera en forme.
Mais alors le choix sportif quand reviens de blessure, c'est de mettre celui qui est un peu meilleur que non. Enfin je sais pas.
Moi je suis pas d'accord.
Mais Thomas l'a très bien dit. On l'avait eu, d'ailleurs, on l'avait reçu dans Bartoletta, mais il lui avait parfaitement expliqué. Lui, il va être titulaire en 15. Il a bien voulu dépanner, effectivement, en 10. Oui, mais il a voulu dépanner en 10. Mais je crois que vraiment, dans la tête de Fabien, la hiérarchie, quand il n'y a pas de blessure et que tout le monde est à 100%, la hiérarchie, elle est très claire dans sa tête.
Je suis d'accord avec toi.
Donc après, en fait, le point d'interrogation, c'est de savoir quand est-ce que Romain va revenir à son meilleur niveau. Il est là, le point d'interrogation. Meilleur niveau, s'il n'y a pas de blessure, on sait très bien la hiérarchie dans quel ordre c'est. C'est Romain en titulaire en 10 et c'est Thomas en titulaire en 15.
Mais par rapport à ce qu'on a vu, je ne suis pas sûr que Thomas Ramos soit pas aussi bon qu'au poste d'ouvreur que Romain Ntamack.
Je suis d'accord.
Non, mais c'est là la question.
Mais qui est aussi bon que Thomas Ramos à son vrai poste,
Romain Burros, je pense.
Romain Burros contre les Blacks, il a fait un grand match.
C'est pas un buteur.
Si tu gardes
Ramos en 10, tu peux mettre Burros en 15 parce que Burros, sous les chandelles, il est
le
meilleur joueur quand il y a des bombardements, comme ce sera sans doute le cas pendant le tournoi. Donc ce serait pas complètement irraisonnable de mettre Burros en 15, à condition de garder Ramos en 10.
Le sportifo politique ou le politico sportif.
En fait, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que parfois dans une équipe c'est pas les meilleurs qui doivent être à leur poste.
Oui.
Et Galtier l'explique très bien. Lui, ce qu'il a envie d'avoir, c'est une relation de longue durée. Bah, la meilleure relation de longue durée, c'est Dupont et Tamac. Donc logiquement, tu le mets sur le terrain. Après, c'est du sportif quand même, parce qu'encore une fois, ça fait évoluer le jeu. Ça permet cette connexion, cette connivence presque entre les joueurs pour jouer ensemble. Et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir cette relation qui s'installe. Donc pour moi, c'est du sportif aussi. Alors oui, c'est du politique parce que oui, je pense que Ramos serait meilleur et que Bureau 115 pourrait apporter plus. Oui, sauf que c'est pas dans ce sens-là qu'on construit une équipe. C'est encore une fois, on met les joueurs qui se correspondent le mieux, qui s'entendent le mieux sur le terrain et qui ont la meilleure relation.
Qui ont des automatismes.
Et des automatismes, exactement. Le simple fait de dire je mets les meilleurs joueurs à chaque poste, ça ne fait pas gagner des matchs. Par contre, avoir des automatismes, jouer ensemble, jouer l'un pour l'autre.
Oui, mais les automatismes, Ramos et Dupont les ont aussi.
Oui, ils les ont. Ils se connaissent par cœur.
Et je m'appuie sur Ramos aussi. Alors, même si vous dites que ce n'est pas vrai, Ramos a dit qu'il préférait jouer en 4.
Mais parce que.
C'est vrai ou c'est pas vrai.
Non, mais Thomas, c'est un garçon tellement bienveillant. On l'a vu quand il y a eu le problème à Mathieu Jalibert. Il a dit je suis embêté pour Mathieu, ce qui se passe pour Mathieu.
Enfin, Denis, il pense à lui quand il dit ça aussi, avant de penser aux autres. Parce que son poste, c'est 15, il le
non,
sait.
Oui, donc, oui, d'accord.
Lui, non, mais oui, mais 15,
quand t'es joueur de rugby, je suis désolé, Wilfried, quand tu as l'équipe de France, t'attends une sélection, tu dis pas, je préfère jouer arrière ou d'ouvreur. T'as envie d'être dans l'équipe. Et je veux dire.
Mais si dans ton club, tu joues en 15, t'as envie de jouer en 15 dans l'équipe de France, logique. Enfin,
mais
je crois que
alors, expliquez-moi pourquoi il est très bon en 10. Expliquez-moi.
Ça n'empêche pas qu'il soit bon.
Là-dessus, c'est intéressant et on va prendre aussi l'avis de Wilfried. Mais réponds d'abord, Denis. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une bascule qui s'est opérée durant la tournée d'automne pour Thomas Ramos en se disant vu les matchs qu'il a réussi à faire
mais moi,
on a envie de le revoir à ce poste là et on adore Romain Tamac.
Mais moi je t'avoue une chose, il m'a bluffé. Alors, de voir qu'il atteignait un tel niveau de performance, je ne pensais jamais que ce garçon que je trouvais excellent à l'arrière, c'est pas le propos, mais à l'ouverture, c'est un poste tellement exigeant aujourd'hui dans le rugby moderne, c'est peut-être le poste le plus compliqué, que je me dis, mais comment ce type qui jouera jamais à l'ouverture en club arrive et joue en équipe de France, il se balade, parce qu'en fait, il se balade, le mec.
Moi, j'ai une question à poser à Wilfried, qui voit les joueurs du Stade Toulousain toutes les semaines. Est-ce que pour toi, Romain Tamac a retrouvé toutes ses qualités, est-ce que pour toi, il s'affirme à nouveau comme le 10 titulaire de l'équipe de France? Et est-ce que vous en parlez? Est-ce que Mola en parle? Est-ce que les joueurs en parlent? Est-ce qu'il a complètement récupéré de ses blessures? On rappelle qu'il a eu plusieurs blessures, hein, Romain, ces derniers temps.
Alors Hugo Mola ne l'a pas évoqué, il a eu plusieurs blessures, il a eu cette fameuse blessure au genou avant la Coupe du Monde et il devait retrouver l'équipe de France au mois de novembre et il s'est blessé une déchirure au mollet avant le rassemblement, il a donc été forfait. Non, on ne peut pas dire que Romain Tamac est redevenu l'ouvreur étincelant qu'on a connu en bleu en championnat avec le Stade Toulousain, mais il a encore deux matchs là sur ces deux week-ends
celui
de championnat.
Cet après-midi est presque décisif, non, Wilfried?
Effectivement, il y a Leicester. De toute façon, il sera dans les 42. Romain Tamac, c'est pas le souci. Donc voilà. Et il y a celui de Leicester la semaine prochaine à domicile pour le Stade Toulousain. Et puis certainement que Fabien Galtier va vouloir le remettre en selle. Rappelez-vous que avec tout le respect qu'on a pour le Pays de Galles, c'est pas le plus gros adversaire que les Français vont avoir à domicile au Stade de France fin janvier. Ce serait peut-être une situation idéale pour remettre Romain Tamac avec Antoine Dupont, parce que dans sa tête, c'est quand même sa charnière depuis longtemps. Voilà, et c'est une seule blessure. Et peut-être que on a parlé beaucoup de la blessure d'Antoine Dupont pendant la Coupe du Monde 2023, mais peut-être que le titre mondial, il se perd en août quand on perd Romain Tamac à l'ouverture aussi, quelque part. Voilà. Donc c'est un choix cornélien pour le staff, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous que Ramos a été étincelant à l'ouverture. Malgré tout, les talents, ils ont envie de les mettre sur le terrain. Et ces hommes-là, avec Toulouse, avec l'équipe de France, ont déjà gagné, ont l'expérience. Même si Romain Bureau a ses arguments des ballons hauts, les Toulousains, ils parlent de vécu collectif, Fabien Galtier, et ont gagné à Toulouse en bleu. Et voilà, ont des arguments pour être sur le terrain, les deux, en 10 et en 15.
Philippe nous appelle au 32-16, il veut participer à notre débat. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Alors, plus je vous écoute, plus je réfléchis à la question, moi je la comprends.
C'est le premier.
Non mais là, on passe pas une thèse de philo, parce que la différence entre politique et sportif, je vois pas trop. On a des talents d'équipe de France, on a des gars, voilà, Ramos, il est exceptionnel, tout ça, vous avez tout dit. Moi, ce qui m'inquiète plus, de plus, c'est qu'en fait, je ne vois pas de ce qu'on appelait avant le fond de jeu. Je ne vois pas quel est le jeu de l'équipe de France. On a des exploits individuels, on a des passes au pied, il y a le bébé qui va ramasser la balle et qui marque. On joue en contre un peu, comme on peut jouer en équipe de France de foot. Mais je ne vois pas de schéma de jeu comme pour les grandes équipes, comme l'Afrique du Sud, de nouveau l'Australie, voire l'Angleterre, et l'Écosse. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Oui, tu veux dire au niveau de l'identité du jeu, oui.
Voilà, on n'a pas d'identité.
La possession, la dépossession.
Alors, c'est vrai que l'Irlande, c'est toujours. Non, mais c'est vrai que l'Irlande a une vraie identité de jeu, qui est parfois ennuyeuse, l'Afrique du Sud aussi. Mais, nous, on ne joue pas la française, si tu veux. Donc, on est très bon en contre. On est une équipe qui est très bon devant, parce que devant on est costaud, puis on est très bon en défense. Oui, mais c'est un choix d'entraîneur, de stratégie. Tu es très bon en défense, tu es très bon sur le ballon en contre, et ça peut te faire gagner. Alors, ça t'a pas fait gagner contre les Sudaf, mais ça peut te faire gagner.
Je vais tenter d'expliquer notre question à Philippe, même si moi aussi, au bout de 10 minutes de débat, j'ai du mal à la comprendre, mais je vais tenter de le faire quand même, mon cher Philippe. En gros, le choix sportif, c'est de reconduire ceux qui ont brillé durant la tournée d'automne, et Thomas Ramos, évidemment, a brillé durant la tournée d'automne, mais il y a le retour de Romain Ntamack, et c'est un choix un peu plus politique, qui reste sportif, évidemment, mais un peu plus politique, pour préserver son joueur.
Finalement, vous êtes tout à fait
d'accord avec moi. De lui laisser le temps de revenir,
Penser, on va dire. Le second.
Bon, dire ça, de lui laisser le temps de revenir.
Écoutez, c'est philosophique, j'ai bien compris que c'était pas pour vous, c'est pour moi, les GG. Ouais. Merci Philippe d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle juste qu'il y a donc le Super Moscato Show qui arrive sur RMC Story le lundi à partir de 15h. Premier invité exceptionnel à la télé.
Voilà.
Tu vas pouvoir
Fabien Galthié.
Tu vas lui poser la question, alors choix politique ou choix sportif?
Pas comme ça. Tu vas faire. Je vais prendre une question. Je vais être plus clair. Plus clair parce que l'auditeur, il a pas compris le problème.
Tu vas aussi lui poser des questions quand même?
Ah, je vais lui poser. J'ai préparé quatre questions.
C'est pareil parce que Wilfried,
tu veux que je te les dise?
Wilfried doit aussi avoir Galthié pour le podcast. Donc, t'as intérêt à poser des questions un peu.
On l'aura en face à face comme ça pour le podcast entre les poteaux. D'accord. Ce sera sur YouTube aussi, sur de longues minutes. Donc, il est pour RMC Sport, Fabien Galthié, lundi après-midi. Donc, à retrouver lundi après-midi, lundi soir.
Exactement. Ce sera exceptionnel et ce sera donc à partir de 15h dans le Super Moscato Show. Fabien Galthié, invité exceptionnel d'RMC et d'RMC Sport. Et d'RMC Story, évidemment. Il est 11h28. On se retrouve dans quelques instants pour le dossier des GG. On va vous parler de deux hand et des mondiaux qui débutent dans 3 jours pour notre équipe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. C'est le débat caché. Nous avons désormais décalé ce débat caché à 11h45. On vous offre une nouveauté à 11h30. Il y aura une nouveauté le samedi, une nouveauté le dimanche. Je ne vous en dis pas plus pour demain. Mais pour aujourd'hui, c'est le dossier des GG et on va revuer comme ça. Hein, c'est malsain, mais on va remuer ce couteau dans la plaie.
RMC, le dossier des GG.
6 secondes, mais qu'est-ce que c'est 6 secondes? On a la balle. Pour une demi-finale, on a le ballon. 29 pour la France, 28 pour l'Allemagne.
Il peut rien nous arriver.
Dika qui se fait attraper, Dika qui va trop. On a perdu le ballon. Égalisation de l'Allemagne. Égalisation de l'Allemagne. 20 ans partout.
C'est pas possible.
Prolongation.
Non.
Le but de l'Allemagne.
C'est terminé.
Que c'est cruel. L'équipe de France est éliminée de ces Jeux Olympiques.
À cette élimination en quart de finale après un sabordage en règle dans les dernières secondes, vous vous en souvenez avec cette perte de balle de Dika même lors de la revanche à sonné pour les Bleus du hand après cet échec retentissant lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Dans 3 jours, l'équipe de France débute le Mondial 2025 face au Qatar. On retrouve notre journaliste qui va suivre nos Bleus durant toute cette compétition, c'est Clément Brossard. Bonjour Clément.
Salut JC, salut tout le monde.
Avant de partir en Croatie, tu es avec nous dans le studio RMC. Alors cette ultime action au JO, est-ce qu'elle est encore dans la tête des Bleus?
Bah, petit retour en arrière, Jean-Christophe. Alors, j'ai réécouté même à ce moment-là l'émission et tu le disais, j'ai envie de pleurer. Et Marion aussi disait, j'ai envie de pleurer. C'était à l'été 2024, évidemment, à Lille. Les Bleus, vous l'avez entendu, viennent de s'incliner après prolongation face à l'Allemagne en quart de finale des Jeux Olympiques. 6 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Temps mort demandé par Guillaume Gilles, dit quand même, dicte la combinaison, tendez l'oreille et rappelez-vous.
Tu me donnes la balle, toi tu cours à l'aile. Le mec va courir avec toi, tu dégages.
c'est brouillon. Dika même perd le ballon sur l'action suivante, permet aux Allemands de revenir, puis de nous achever lors de la prolongation. En fin de match, Nico Paolorsi, qu'on embrasse, tient à son micro le sélectionneur Guillaume Gilles, touché.
Comment tu vis les 6 dernières secondes là où on a l'impression que le match il est gagné? C'est des actions qui arrivent jamais.
C'est incroyable. On tenait le match hein, et il y avait ces 6 secondes où il fallait laisser le chrono s'égrener. C'est un geste qui nous amène à cette perte de balle. C'est terrible.
La compréhension pour tout le monde. Joueur, entraîneur, passionné et capitaine, Nico Karabatic jouait ce jour-là le dernier match de sa carrière en bleu.
Je pense qu'il y avait 1% de chance pour que l'Allemagne marque et ça s'est passé. Donc, je n'ai jamais vécu de scénario dans ce sens-là. C'est vrai qu'on l'a eu dans l'autre sens à l'Euro. C'est pas la fin de JO que j'espérais.
C'était il y a 5 mois. 5 mois, c'est court. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, des torrents même. Et les anciens sont partis vers d'autres horizons. Mais ces 6 secondes, ce geste de Dika même, évidemment, qu'il reste dans les mémoires. Lundi, les Bleus étaient à Créteil, à la maison du handball. En ce moment, ce moment a été l'objet de plusieurs questions. On a sondé notamment Elohim Prandi sur les état mental de Dika même.
C'est un fait de jeu, ça aurait pu arriver à n'importe qui. L'important aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. Moi, je l'ai senti envieux, je l'ai senti acharné, je l'ai senti combatif. C'est la meilleure attitude à avoir, il n'a pas changé et on a besoin de lui.
Mais qui d'autre que le principal intéressé pour revenir sur les faits? Dika même, lui-même, opéré à l'épaule en novembre, sera bien présent au Mondial. C'était quasi inespéré suite à son opération. Et il tique toujours un peu quand on lui rappelle son souvenir, son erreur des Jeux.
C'est une cicatrice qui restera toujours dans ma tête. Mais c'est passé, c'est derrière moi. Le Mondial, c'est notre compète. Comme je l'ai dit, c'est notre opportunité de gagner une médaille. J'ai tout simplement envie de gagner un Mondial en étant un acteur principal sur cette compète.
Alors un Mondial qu'il a déjà remporté en 2017, tout comme Luka Karabatic, Ludovic Fabregas et Nedim Remili, le demi-centre qui d'ailleurs ne pense qu'à une chose, se projeter.
Ne me parlez pas de cicatrices parce que pour moi il n'y en a pas. On a envie d'écrire notre histoire officiellement avec surtout l'arrêt de Nico. Des experts, c'est vraiment fini. C'est vraiment une équipe de France new gen entre guillemets qui arrive. C'est sûr que ce sera compliqué, ce sera différent, mais ce sera nous, ce sera notre histoire et on a envie que ce soit une belle page.
Et la page, les GG, ben on va commencer à l'écrire mardi avec le premier match des Bleus dans ce Mondial face au Qatar. Remake de la finale de 2015. De quoi cette fois nous rappeler de meilleurs souvenirs. C'était le 5e des 6 titres mondiaux français.
Merci beaucoup Clément Brossard pour ces précisions et pour ces sons hein, que l'on a malheureusement, j'ai envie de dire quand même, plaisir à entendre parce que ces Bleus parlent de cette dernière action et ils ne se sont pas cachés cette semaine en conférence de presse. Je précise juste avant de débuter le débat que les Bleus ont remporté hier soir leur dernier match de préparation pour ce Mondial avec un festival offensif. Victoire 44-38 face au Portugal. Cette dernière action est-elle toujours un traumatisme? C'est la question que j'ai envie de vous poser, les GG. Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
C'est non. Marion Bartoli.
Pour toujours, malheureusement, oui. Après, ça ne les empêchera pas de gagner autre chose.
Ok. Fred Weiss.
Non.
Non. Denis Charvet.
Oui et non. Non, je déconne. J'espère pas. Non.
Ok. Non, mais t'as un doute.
Oui, j'ai un doute parce que c'est tellement terrible ce qui lui est arrivé.
Marion, pourquoi oui?
Mais parce qu'on ne pourra jamais l'effacer. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne leur empêchera pas de gagner. C'est tout ce que je leur souhaite et du plus profond de mon cœur de gagner plein d'autres compétitions et d'arriver à marquer. Mais c'est un petit peu comme le match contre la Bulgarie en 93. C'est, on ne pourra jamais l'enlever, on ne pourra jamais l'effacer. Tu peux gagner la Coupe du Monde plusieurs fois ensuite et puis te qualifier et puis faire plein de magnifiques matchs. Tu ne pourras jamais enlever que pendant ce match, la France menait 20-14, que le match y était plié et que sur un fait de jeu qui normalement n'existe jamais, comme l'a dit Nicolas Karabatic, il le dit quand même, il a des mots très puissant à la fin de ce match, malheureusement au micro, à nos micros, en disant voilà, c'était pas la fin des JO que j'espérais. Ce traumatisme-là, il existera toujours et à vie pour les joueurs qui étaient sur le parquet à ce moment-là. Après, ça t'empêche pas de pouvoir renaître de ces traumatismes, de pouvoir te remettre à gagner, de pouvoir justement t'en servir comme moteur en disant mais plus jamais, je veux que ça m'arrive, donc plus jamais je ferai cette erreur.
Mais je pense que Marion,
ça existait.
Tu as raison, mais en même temps, je pense que le faut pas que ça dure, il faut qu'ils gagnent tout de suite. S'ils sont champions du monde bien et qu'ils marquent 8 buts, c'est fini, on n'en parlera plus jamais.
Et voilà,
mais par
effacé,
contre, attention,
exactement.
S'ils ne gagnent pas là et que ça perdure dans le temps, qu'ils ne gagnent pas de tournoi, ça va être dur pour lui. Ça va être dur et puis on en reparlera tout le temps.
Ça va être dur parce qu'on va leur rappeler tout le temps.
Oui, on va leur rappeler
c'est
tout
ça,
le temps.
Ça, le problème, c'est que les journalistes vont toujours venir. Est-ce que vous rappelez de ça au prochain JO? Le premier truc qu'on posera comme question, c'est rappelez-vous des derniers JO. Et c'est ça le problème. Mais moi, je pense justement comme Marion que tu dois t'en servir. C'est pas un traumatisme.
C'est un moteur.
C'est une base. C'est une équipe de France nouvelle génération qui va partir sur de nouvelles bases en disant ok, on part de ce point où à ce point c'est passé de façon ultra compliquée, un truc qui n'arrive jamais. un épiphénomène, mais qui nous a coûté quelque chose que qu'on voulait, une médaille olympique.
Voire un titre.
Ouais. Mais c'est fini. Il faut passer à autre chose quand on est un sportif. Tout ce qui est le passé, c'est passé.
Bien sûr, ils ont l'habitude. C'est des mecs qui, depuis leur plus jeune âge, vous, sportifs de haut niveau.
Celui-là, il fait mal quand même.
Oui, bien sûr.
Celui-là, il fait quand même très mal. En France, à la maison, il fait quand même très mal.
En tennis, putain, vous perdez une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours.
Oui, mais il y a manière de perdre. Le problème, en fait, c'est le scénario qui est terrible.
Je crois que Mario a raison, c'est les JO en France, c'est pas pareil.
Mais oui, c'est les JO à la maison. C'était les derniers Karabatic, je pouvais offrir une médaille.
Bien sûr, mais quand on dit traumatisme, ça veut dire que ça va les influencer et les faire perdre. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à terme. L'avantage du hand, c'est que tu as des compétitions internationales tous les ans, deux fois par an.
Et il faut gagner.
Et donc, si tu arrives à gagner de manière un peu plus classique, ça sera vite oublié. Si effectivement tu te retrouves dans la même situation, dans une demi-finale ou une finale, et qu'il reste quelques secondes, que tu dois faire un choix, là évidemment ça va peut-être gamberger un peu. Les sportifs ont l'habitude.
Oui,
de perdre.
Lui, le garçon, il a l'air quand même solide.
Il est hyper costaud. Et hier, je regardais un petit peu son comportement face au Portugal. Il y a eu la victoire avant face à la République tchèque, mais on l'a moins vu parce que c'était son match de retour. Mais hier, face au Portugal, temps mort demandé par Guillaume Gilles, il prend la parole. Parce qu'on pourrait se dire, ah, c'est bon, il arrête de parler désormais.
C'est exactement là-dessus que je voulais porter le débat, parce qu'il y a, vous parlez de Dikamem, et on sait à quel point c'est un grand champion, et on sait à quel point on lui a rabâché cette dernière action, et on lui rabâchera encore durant de nombreuses semaines. Mais il y a aussi
comme le comportement. Comme Colomboigny face à l'Argentine
en finale. Mais il y a aussi le comportement du sélectionneur. C'est-à-dire que là, il s'est, entre guillemets, même si c'est l'habitude au hand, mais effacé devant un joueur, est-ce qu'il peut se permettre encore une fois de s'effacer devant un joueur après ce qui s'est passé? Oui, mais dans une grande compétition, un moment charnière, tout ça.
Bah, oui, c'est leur principe de communication. Moi, je vois pas quel est le problème. Je pense qu'au contraire, faire preuve de laisser parler un peu les joueurs, aussi les remettre au milieu du débat, je trouve que c'est hyper important. Donc il n'y a pas d'ego dans ce moment-là. Il y a des victoires qu'il faut engranger. Peu importe la manière de manager, moi ça me choque pas du tout. Hein.
Je m'adresse à vous qui avez été des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'il n'y a jamais une action? Je ne voudrais pas forcément revenir sur Vince Carter, on peut trouver autre chose, mais est-ce qu'il n'y a pas une action qui, à un moment donné, vous a marqué un point, peut-être pour Marion, quelque chose où vous vous êtes dit, le match d'après, ben voilà, c'est encore ancré en moi, et donc c'est difficile d'être libéré.
Mais Vince Carter, c'est un très bon exemple, parce que, encore une fois, moi, je n'avais pas de traumatisme, c'est les gens qui ont eu un traumatisme, et à force de me le répéter, c'est devenu un traumatisme.
Okay.
Mais concrètement...
Mais qui t'a géré
finalement, ça m'a dérangé après, mais au départ, ça m'a gêné à aucun moment. C'est juste une action de jeu, encore une fois, un épiphénomène qui est fantastique, mais un épiphénomène pour moi. Sauf qu'à force de l'entendre, de le rabâcher, et c'est ça qui me fait peur par rapport à cette équipe de France, c'est pas leur réaction à eux, parce que la réaction, ça sera la réaction d'athlètes de très haut niveau qui vont se comporter comme il faut. Sauf que si à chaque
fois. C'est la faute des journalopes qui vont lui poser les questions, c'est ça que t'es en train de dire. C'est quoi l'autre nom aussi?
Je sais pas.
Le fait de ne pas passer à autre chose, de parler toujours de la même chose, et ben parfois ça te rentre un peu dans la tête par ce biais-là.
Ok, les copains, merci pour ce débat. Merci Clément Brossard.
Et je vous en prie.
Mardi, cette rencontre face
lundi,
au Qatar.
Lundi, on s'envole et mardi, début de la Coupe.
En tout cas, on leur souhaite de gagner.
Ouais, ils ont gagné. Tu crois qu'ils ont gagné?
Le Danemark reste sur trois titres mondiaux de suite. Ils sont chez eux pour une partie de la compétition. Ouais. Donc, il y a un gros morceau quand même.
Danemark, Norvège et Croatie. Voilà. Trois nations de hand. Et bien,
des pays l'un à côté de l'autre, en plus. C'est génial.
Ça se passera dans ces trois pays. Je suis bien d'accord avec toi.
C'est bien.
Ça se passera dans trois pays. ce mondial de hand.
Ton empreinte carbone va encore,
ouais, mais j'y peux rien.
Grimper.
Comme ça.
Je ferais bien de partir en stop, là, tout de suite, là.
On va partir.
Non, il va attendre un peu. Merci beaucoup, Clément Brossard. Ce sera à suivre, évidemment, sur RMC, sur rmcsport.fr, pour toutes les informations autour de ces mondiaux avec notre équipe de France. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché, pour terminer cette émission en beauté. Les GG ne savent rien, mais elles vont quand même se régaler. Vous allez voir. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, de retour dans les grandes gueules du sport. La dernière ligne droite avec Denis Charvet, Marion Bartoli, Fred Weiss, Christophe Cessu. À partir de midi, les paris RMC avec toute la Dream Team des paris autour notamment de Rennes-Marseille. C'est ce soir, c'est votre match, votre choc de Ligue 1. Mais tout de suite, eh bien c'est l'heure d'un grand moment dans les grandes gueules du sport. Je sais que vous l'adorez, les auditeurs, moi aussi. Le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Dans le noir total, les GG, elles n'ont rien préparé. Elles ne peuvent rien préparer. Mon débat caché est toujours sous scellé. Vous vous devez répondre à une question. Une question d'actualité. Et réagir sur l'instant, sur le moment. Votre débat caché aujourd'hui. C'est ça. Un petit peu d'anglais, Denis. Bad boys, bad boys.
Bad boys, mauvais garçon.
What you gonna do, c'est ça?
What you gonna do?
Alors pourquoi bad boys? Is back. Is back. Ça c'est pour Marion. Je sais qu'elle va adorer ce débat caché. C'est chez lui. Trois ans après sa dernière participation, un grand retour dans un grand bruit avec beaucoup de fracas. Après sa sortie sur Yannick Sinner il y a quelques semaines, le fantasque australien a de nouveau fait le show en conférence de presse pour dire ça.
Je pense que l'on regarde ce sport parce que l'on veut voir des personnalités fortes. Mon retour ajoute ce côté aléatoire au scénario d'un match. On ne sait pas ce qui va se passer sur le court et j'aime ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très bons joueurs sur le circuit, mais pas vraiment de mecs avec une personnalité clivante. C'est une bonne nouvelle que je sois de retour, car en mon absence, le tennis devenait banal.
Le tennis devenait banal, mais au-delà, au-delà de ça, au-delà du tennis, les copains. Est-ce que vous avez bien entendu sa phrase ? Voilà, le sport manque aussi de ce genre de personnalité clivante et que il trouvait le tennis un peu banal sans lui. Est-ce que le sport a besoin de ce genre de personnage ? Le sport a-t-il besoin de ce genre de joueur comme Nick Kyrgios ? Oui ou non ? Denis Charvet ?
Oui. Oui, mais je...
Ok. J'ai l'habitude. Mario Bartoli.
Alors, comment te dire ?
Oui ou non ?
Oui, mais. Vas-y, voilà, fais comme moi.
Voilà. Alors, mais surtout pas de Kyrgios.
Fred Weiss.
Évidemment.
Évidemment.
Le sport avait besoin de garçons comme McEnroe, c'est-à-dire qu'il y avait une grande gueule.
Exactement.
Mais il faut des actes. Voilà, c'est un charlatan.
Ok. Vas-y, Fred.
Moi, je viens d'un sport qui adore le trash talking. J'adore ça. C'est ce qu'on adore le plus. Moi, j'ai des souvenirs d'un Larry Bird, par exemple, qui disait, aujourd'hui, j'ai joué avec ma main gauche parce que vous êtes trop nul.
Oui, mais vous, ça fait partie de notre culture. C'est pas la même chose. Oui, tennis, c'est pas la même chose.
Oui, mais je suis d'accord, mais on parlait du sport en général.
Dans la plupart des sports,
et c'est vrai que sinon, c'est trop aseptisé. On a trop envie d'avoir des gens modèles qui répondent aux questions de façon modèle, qui se comportent sur le terrain de façon modèle. Larry Bird, c'est pas joli et je m'excuse par avance, mais on se fait chier.
Mais tu parles de Larry Bird, sauf que Larry Bird, c'est un grand champion. Je suis désolé.
C'est un immense champion.
Kyrgios, il gagne rien.
Oui, mais
il est blessé.
On parle du genre de ce type. On parle pas seulement de Kyrgios.
Le problème, il fait ça parce que je suis même pas sûr que ce soit. Qui ressemble à ça, en fait. C'est ça qui m'énerve un peu. Je pense que c'est plus pour faire parler de lui. Tu vois, il y a un côté un peu surjoué.
Non,
il est comme ça. Oui, mais il y a un côté un peu mégalo.
Ah non, c'est surjoué à mort.
Mais il y a un côté mégalo. Il est complètement mégalo. Il a besoin de ce qu'on parle de lui.
En général, t'as besoin de mecs un peu fun, un peu funky.
Mais McEnroe, par exemple, n'a jamais calculé.
Et franchement, je trouve ça un peu dur et je vais aller voir Marion, mais s'il faut juste avoir gagné pour l'ouvrir, c'est un peu dommage quand même.
Mais non, mais t'as vu que ce qu'il dit, je vais aussi
dire
que
le point et tout.
Excuse-moi.
Il faut avoir la légitimité, tu ne peux pas faire que l'ouvrir et jamais gagner un match.
Mais Kyrgios, il a quand même, même si c'est pas Larry Bird, même si c'est pas Pete Sampras, même si c'est
Il a rien gagné, qu'est-ce que tu racontes?
Mais c'est faux!
Mais il a rien gagné, il a pas gagné le Grand Chelem.
Il a quand même une belle carrière, entendons-nous bien, c'est pas un grand champion, mais il a quand même une belle carrière, il a le droit de l'ouvrir. C'est pas un amateur, c'est ça que je veux dire, Marion.
Non, pas l'ouvrir de la manière dont il l'ouvre sur les joueurs en fracassant absolument tout le monde en permanence. Puis en plus, le problème de Kyrgios, c'est moi, c'est ce qui m'exaspère avec son comportement. En fait, son jeu, moi j'adore le voir jouer parce qu'effectivement, c'est extrêmement spectaculaire ce qui se passe, beaucoup de choses sur le terrain. Mais son comportement, je peux plus.
Il est horrible.
Je suis désolée de dire en plein match
parce
à Stade Wawrinka.
Comment tu peux dire en plein match
à Stade Wawrinka à Montréal que t'es. Oh, mais tu sais quoi, en fait, je vais te dire un truc, t'es cocu. Non mais comment tu peux accepter ça, comment tu peux accepter ça? Et puis en plus, le pire, c'est que derrière cet Africain, je peux dire qu'il te l'a donné dans le vestiaire, le Nick Kyrgios, qu'il te l'a laissé. Vraiment, ça allait très mal se passer. Et bien sûr, il a pris la poudre d'escampette parce que courage Fillon, c'est-à-dire qu'il l'ouvre, mais jusqu'à une certaine limite. Et après, de toute façon, devant les grands champions, comme avec Novak, il va s'aplater comme une crêpe en disant mais Novak c'est le meilleur, mais Novak c'est le plus grand, mais Novak c'est le plus truc. Parce qu'à alors ce moment-là, ça l'arrange. Donc ce
alors comment
sur le débat. Donc ce comportement-là, je peux plus. Non mais je peux plus. Je peux plus. Que il y ait des comportements effectivement comme un McEnroe Borg avec l'espèce de Borg qui disait jamais rien, qui avait un comportement plutôt froid avec McEnroe qui était la fougue, le feu, etc. T'avais deux champions immenses qui s'affrontaient, c'est ça que les gens adoraient. C'était adoré, c'était plein à craquer ce genre de match. Agassi Sampras dans un autre style aussi.
Pardon,
et le kit de Las Vegas qui venait avec
si
ses tenues.
Ça va. Si Kyrgios Sinner a lieu,
Sinner, mais il va le défoncer. Mais s'il te plaît, messieurs, mais il y aura aucun match. Il va prendre 3-7, il va prendre 2-2 et 2, et puis ça fera 2 heures et ça fera pchit.
Mais ça va intéresser tout le monde. Non, Mario, on est d'accord que ça va intéresser tout le monde.
Mais oui, mais ça va intéresser tout le monde. Mais en fait, c'est ce que je t'explique. Le tennis, oui, bien sûr qu'on a besoin de Nick Kyrgios en termes de tennis parce qu'il produit un jeu qui est attrayant, qui est explosif, qui est intéressant. Bien sûr. Je te le dis encore moi sur le plan tennisique, j'adore le voir jouer Nick Kyrgios. Mais ce comportement à outrance, sans aucune limite, de rien, c'est pas possible de l'accepter. Je suis désolée, tu peux pas dire comme ça des outrances en plein match à tes adversaires. En les insultant comme il le fait. Le trash talking dans le basket, oui, effectivement, entre guillemets, t'es mauvais, t'es nul. Voilà, tu chambres un peu dans le foot aussi, ouais, d'accord. Mais il y a des limites à pas dépasser. Je sais pas, tu vas dire à ton
gars que
tu vas jouer en face,
ah,
mais tu sais, en fait, toi, t'es cocu. Non, mais tu peux pas dire ça.
Je peux pas dire ça.
Il y a des choses qui sont pas acceptables. Je suis désolée.
Mi-décembre, Nick Kyrgios avait balancé la grenade sur Sinner et il l'attendait à l'Open d'Australie.
Oui.
On va l'écouter. Si ça arrive.
Je veux jouer contre Sinner à l'Open d'Australie. Je n'attends que ça. Et si je le joue, je ferai en sorte que chaque personne dans le public soit contre lui. J'essaierai de déclencher une émeute, un soulèvement contre lui. J'abandonnerai tout respect. Je ferai n'importe quoi pour gagner.
Alors, personne ne prône la violence, surtout pas dans ce studio. Mais qui n'a pas envie de voir Kyrgios Sinner?
Moi j'ai envie.
Mais non, mais c'est un appel à la haine. Je suis désolée, c'est carton rouge, c'est un appel à la haine. C'est un appel à la haine. Tu peux pas que tu dises voilà, moi j'ai envie de l'affronter parce que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. J'ai envie de me mesurer à ça parce que je reviens et que j'aime le show. Mais tu veux pas dire à la haine entre guillemets. Ben allez-y, mais jetez-lui des bouteilles sur la tête parce que si ça peut m'aider à gagner, ça m'aidera. Non, mais tu peux pas dire ça, j'y sais.
Ça peut aller loin.
Pas n'importe quel prix. Je suis désolée. Non.
Ok, bon bah c'est non, j'ai compris.
Ce sera soit il passera même pas le premier tour, donc ça ira.
Je suis désolé. Ah, il est capable de passer le premier tour. Après, ça risque d'être compliqué pour l'Australien. En tout cas, voilà pour le débat.
Il va devoir se charger sérieusement pour éviter la douleur, hein, quand même. Donc,
Il a mal aux abdos là.
Ouais. Donc j'espère qu'il va pas.
Toi aussi t'as mal aux abdos.
Oui,
toi,
là il a mal à la tête. Là.
T'as mal à l'abdos.
J'ai fait un peu du gainage cette semaine.
Du gainage, toi. Ton âge, quelle idée. Arrête tout de suite.
Merci Christophe Cessieux, Fred Weiss, Marion Bartoli, Denis Charvet. C'était encore délicieux d'être avec vous ce matin pour les grandes gueules du sport. On se retrouve demain à partir de 9h. Et d'ici là, évidemment, cette émission est tout de suite disponible. En podcast, régalez-vous, chers auditeurs. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC autour de Rennes-Marseille. À tout de suite.